Bonsoir à toutes et à tous. Un petit point logistique avant de commencer. Je vais essayer de parler sans micro. Non seulement ça utilisera moins d'électricité, mais ça a peut-être un côté plus naturel. J'ai essayé de faire porter ma voix. Si à un moment donné, vous considérez que vous n'entendez plus bien, ou si vous n'entendez pas bien, dites-le moi et je passe en micro. C'est déjà le cas ou...
Non,
ça va.
Je reste très manuel.
Vraiment, n'hésitez pas. Hein. Quand je peux, je trouve que c'est plus...
Jean-Pierre, il teste le bras.
Voilà. C'est plus convivial et plus sympa comme ça. J'aimerais commencer par vous ramener 9 ans en arrière, en 2010. 2010, je suis entre mon master et le début de ma thèse de doctorat. Et je pars en tour du monde pendant plusieurs mois. Et je choisis de commencer par 2 mois en Inde. Parce que, à la fois d'autres voyageurs, et puis j'ai lu sur Internet et dans des bouquins que l'Inde est certainement un des pays les plus difficiles dans lesquels voyager, quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on voyage tout seul, mais que, ayant visité l'Inde, après tout le reste est facile. Je me suis dit, ça me semble être un bon conseil, je commence par l'Inde. Et alors tout était vrai. Après, tout était très facile, mais alors l'Inde comme pays, ça a été extrêmement dur. À plein de niveaux. Un de ces niveaux, c'est que, pour moi, ça a été le lieu d'une claque sur la question écologique et la question de la pollution. Alors, de plein de manières différentes, moi j'aime bien dire que ça m'a agressé dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, les rivières constantes avant même de les voir, tellement elles sont polluées. Et puis, en particulier, ça m'a touché parce que j'avais une petite plaie dans la bouche et j'ai passé les premières semaines en Inde que dans des grandes villes indiennes. Et cette petite plaie ne guérissait pas. Je suis allé 2 fois, 3 fois chez le médecin et puis ils m'ont prescrit une sorte de crème antibiotique, que je mette le matin, le soir, voilà. C'était censé aider à cicatriser et ça ne guérissait pas. Et le troisième médecin que j'ai consulté m'a dit, écoutez, monsieur Koff, pas compliqué. L'air indien est tellement pollué que tant que vous ne partirez pas plusieurs jours, voire plusieurs semaines à la campagne, cette plaie ne se refermera pas. Bon, ce n'était pas dans mon programme de partir dans la campagne indienne, donc j'ai poursuivi mon voyage, et ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, l'infection s'est propagée dans le reste du corps. J'ai vécu la pire nuit de ma vie, à la fois en termes de souffrance physique, et puis... aussi psychologiquement, ça a été compliqué parce qu'en fait, c'est toute une histoire, je ne vous raconte pas tout, mais personne ne voulait m'emmener à l'hôpital. Pour une raison inexplicable, l'assurance n'arrivait pas, personne ne voulait m'emmener. Moi, j'avais tous les muscles de mon corps qui faisaient mal, je pleurais dans mon lit tout seul, c'était horrible. Et finalement, à 6h du matin, l'assurance trouve quelqu'un, il m'emmène à l'hôpital. L'explication après coup, c'est que l'assurance avait donné une mauvaise adresse. L'hôpital n'existait pas dans cette ville. Donc les gens ne voulaient pas m'emmener, mais ils voulaient pas m'emmener. Une aventure. Quand j'arrive à l'hôpital, ils font le point, ils disent « Monsieur, vous êtes à 2 minutes de la septicémie. » Donc ils m'ont mis des antibiotiques purs en intraveineuse. On ne fait pas en France, hein, parce que ça me brûle les veines. En 3 jours, j'avais des antibiotiques, je suis rentré en France, j'avais les veines gondolées là dans le bras. C'était... À la fin, j'en pouvais plus. J'ai mis dans les fesses, où vous voulez, mais plus le bras. C'est insupportable. Mais avec ça, ils m'ont rattrapé. Donc j'ai pris conscience que la crise écologique, là en l'occurrence la pollution atmosphérique, on dit qu'à New Delhi, si vous respirez l'air de New Delhi, c'est équivalent à 2 paquets de cigarettes par jour. La question écologique, c'est pas une question de bobo, c'est pas une question de riche, c'est une question aujourd'hui de vie et de mort pour plein de gens déjà sur cette planète, et en particulier pour les populations les plus pauvres. Ça, j'ai vécu moi dans ma chair, dans mon existence. Quand je suis rentré en France, alors qu'il y avait toute la question, est-ce que je vais faire un doctorat, quel sujet, etc. Après, un peu la phase expérientielle, on va dire, est venue la phase intellectuelle, où je me suis lancé dans un doctorat en théologie protestante sur la notion, la pensée écologique de la décroissance. J'ai soutenu ma thèse il y a 1 an, et aujourd'hui, j'en viens à la présentation, aujourd'hui, donc je suis docteur en théologie protestante. Je jongle entre diverses activités, et c'est un choix. À mi-temps, je dirige une campagne interreligieuse internationale sur les modes de vie bons pour le climat. s'appelle Living the Change. Donc on accompagne les gens, faire des choix différents dans les transports, l'alimentation, l'usage de l'énergie. Et à mi-temps, je suis théologien écologique. Donc ce que je fais là, ça fait partie de mon travail. Je continue à lire, à écrire, à penser. Je donne des conférences, je fais des formations. Et puis bénévolement, je préside la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Mon idéal étant, et pour le moment j'arrive à le vivre, à n'être pas 100% théologien ou 100% acteur, mais d'être un théologien qui est en prise avec le réel et inversement, un acteur qui continue à penser. Donc c'est l'équilibre que je cherche. Et ce soir, je suis plus ici, un peu avec la casquette de penseur, mais vous verrez que c'est très orienté aussi vers l'action. Et ce que je vous partage sont des choses éprouvées du terrain. Ce n'est pas un théologien qui travaille dans sa tour d'ivoire. Le titre « Chrétien face à l'urgence écologique, du dialogue et de la collaboration » vous donne déjà quelques clés sur mon propos. La question écologique, ce n'est pas simplement une problématique ou une question d'aujourd'hui, c'est une urgence. Et puis, si le thème, on l'a bien entendu, est celui du dialogue, la question du dialogue, vous allez voir, je la mets dans un équilibre et peut-être dans une dynamique qui va depuis le dialogue partagé à la collaboration, c'est-à-dire à l'action. Dans l'heure qui m'est attribuée de présentation initiale, je vous propose un panorama un peu large. On pourra entrer dans le détail dans la discussion ensuite. D'abord, pour expliciter ce terme, on parle d'urgence écologique. Qu'est-ce que c'est? Quel est le dernier état de la science? Pourquoi parle-t-on d'urgence et pas simplement de problématique ou d'enjeu? Dans un second temps, nous verrons ensemble en quoi nous avons, grâce au dialogue, à la fois atteint un consensus théologique entre chrétiens et sommes face à la nécessité d'élargir et d'approfondir ce consensus. Et dans un troisième temps, nous verrons comment le fait de pouvoir à la fois confesser Dieu le Créateur ensemble et avoir un certain discernement éthique face à l'urgence écologique de façon œcuménique nous mène à une action qui n'est pas isolée, chacun dans son coin, mais qui se vit aussi. C'est une sorte de dialogue programmatique, de façon œcuménique. Voilà pour les trois grands temps de ma présentation ce soir. Et vous verrez que pour chacune de ces trois grandes parties, je vous propose à chaque fois une image d'introduction, non seulement parce que, entre-temps, les neurosciences ont montré qu'on est vraiment des êtres visuels, que l'image parle plus au cerveau que les mots, mais aussi parce qu'on dit parfois qu'une bonne image vaut mille mots. Des mots, il y en aura beaucoup, hein. Je fais un discours. Mais vous verrez que beaucoup, le support visuel pour moi est important. Et vous avez là un couple de jeunes Philippins, le jour de leur mariage, dont la région a été frappée par un typhon. Et vous avez certainement lu que les typhons, du fait du changement climatique, deviennent plus intenses dans cette partie du monde. Il y a des endroits qui deviennent aussi plus fréquents, là ça devient plus intense. Le typhon Haiyan qui avait frappé les Philippines, c'est le typhon le plus fort ayant jamais touché sol, plus de 300 km/h. 300 km/h, c'est la vitesse d'une Formule 1 en ligne droite. Hein. Imaginez toute l'atmosphère autour de vous qui se déplace à cette vitesse. Et dans le lieu où ils étaient censés célébrer leur mariage, ben vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a une grande coulée de boue, tout est détruit, vous ne pouvez pas marcher, etc. Et nous présentent leurs mains et leurs alliances en disant au fond, mais qu'est-ce que ça signifie de se dire oui et d'entrer dans un projet de couple? Qu'est-ce que ça signifie de fonder une famille et d'entrer dans un projet familial quand le jour où on se marie, déjà, notre lieu d'habitation est inhabitable et la dynamite va rendre de grandes parties de la planète inhabitable. Donc on va maintenant voir des graphiques, on va entendre des chiffres. N'oublions pas que la réalité, c'est une réalité humaine derrière ces éléments. Il y a plein d'indicateurs que je pourrais utiliser. Parce que vraiment la question écologique, qui est d'ailleurs plurielle, aujourd'hui on a des rapports scientifiques, si on les empilait on ira jusqu'à la Lune sans difficulté. J'ai choisi deux indicateurs qui sont des indicateurs globaux d'agrégation qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble. Le premier d'entre eux c'est l'empreinte écologique, qui rassemble toutes les consommations de ressources et les émissions de déchets d'un individu ou d'une communauté sous une unité de surface, l'hectare global. On met de côté la question méthodologique, comment est-ce qu'on convertit tout ça dans une même unité. Aujourd'hui, on sait le faire, on a des équations, etc. Ça permet de savoir, à l'échelle planétaire, si l'empreinte écologique, si l'impact écologique de valeur ou non à ce qu'on appelle la biocapacité de la Terre, la capacité biologique de notre planète. Lorsqu'on regarde ces données-là, à la fois ce que la Terre fournit et est capable d'absorber, et inversement ce que nous consommons et émettons comme déchets, nous sommes dans une situation de dépassement global. Voici le graphique clé. Vous voyez qu'il commence en 1961 jusqu'à 2016, les derniers chiffres disponibles, la dernière année dont les chiffres sont consolidés, avec en vert la courbe de la biocapacité de la Terre par être humain, en rouge notre empreinte par être humain, et vous constatez que c'est déjà en 1970 que la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte. Donc ce qui semble aujourd'hui émerger comme un vrai grand sujet sociétal, qui a mis il y a 3 semaines dans les rues du monde entier 6,6 millions de personnes, dont en grande majorité des jeunes, ça fait plus d'un demi-siècle, non seulement qu'on le connaît, mais qu'on le vit. Chaque année, l'humanité a consommé plus de ressources et émis plus de déchets que ce que la Terre est capable d'absorber par être humain. Et vous voyez que l'écart se creuse jusqu'à atteindre aujourd'hui 2,7 hectares globales par personne, de consommation quand la Terre met à disposition 1,6. Et là, même le théologien écologique que je suis est capable de faire ce petit calcul. Cela correspond donc à une consommation de l'humanité de 1,7 planète Terre. Les proportions sont respectées. Hein. Vous allez voir la prochaine slide aussi, les proportions sont toujours respectées. 1,7 Terre. Arrêtez-vous juste une seconde sur ça, ça veut dire qu'aujourd'hui on consomme 70% plus que ce que la Terre peut donner. On peut le dire avec une métaphore qui s'appelle le jour du grand dépassement, en anglais Earth Overshoot Day. Ça c'est maintenant rentré dans les grands médias, ça vous le voyez, voilà je vois des gens qui hochent la tête. En 1979, entre le 1er janvier et le 31 décembre, métaphoriquement c'est le 29 octobre, qu'on avait atteint une planète. En 89, c'était le 11 octobre. En 99, c'était le 29 septembre. En 2009, c'était le 18 août. Est-ce que quelqu'un se souvient quand est-ce que c'était en 2019?
Le 1er août.
1er août. Juillet. Alors, on fait la synthèse des deux. C'est en juillet, mais c'est très proche d'août. C'était le 29 juillet. Encore une fois, à l'échelle de l'humanité. Hein, et vous voyez qu'on est sur un rythme soit de 15 jours, toutes les décennies à peu près. Un chiffre et une métaphore globale qui cachent en réalité de grandes disparités et un accès inégal aux ressources. Si globalement on est à 1,7 planète, les pays à bas revenus en moyenne sont à 0,6. Les pays dits à revenu moyen fourchette basse sont à 0,8 planète. Les pays à bas revenu, c'est ce qu'on appelle en général les pays les moins avancés. Pays à revenu moyen bas, c'est pays en développement, mais vraiment ceux qui ont encore un PIB par habitant très très faible. Vous voyez qu'on est déjà pas loin des 1 planète. Il y a des pays à revenu moyen haut, qu'on appelle les pays dits émergents. Les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sont, eux, en moyenne, d'ores et déjà à 2,1 planètes. On a tous à l'esprit, et le langage d'ailleurs donne cette idée-là, puisqu'on dit pays émergents, même pas pays émergés, que bien entendu, on peut croître et consommer et produire plus en Chine, en Brésil, en Inde, etc. On est déjà à 2,1 planètes de moyenne. Et puis vient les pays dits à revenus hauts, les pays développés. Est-ce que vous avez une idée où est-ce qu'ils vont se situer là, sur l'échelle? Combien on est de planètes en moyenne? 4?
5? 5? 3 et
7. Vous êtes juste dans l'ordre de grandeur. On est à 3,7 planètes pays au revenu. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, hein, les 1,7, ils sont là. Avant, ce n'était pas proportionnel. Ce graphique-là, il est proportionnel, c'est-à-dire que les 3,7 qui dépassent quasiment de la diapositive, c'est effectivement là qu'on en est quand la planète Terre, elle est ici au bout de la ligne verte. Quand on voit ça, on se rend compte du défi. En moyenne, un pays développé, s'il veut revenir à une planète Terre d'empreinte écologique, il faut qu'il divise, qu'il enlève quasiment 75% de son empreinte. Pour moi, et là je vais être un peu caricatural, on pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez dans le dialogue, c'est pas le thème de la conférence, mais pour moi, quand on voit ça, on se rend compte que les discours du développement durable ou de la croissance verte, non seulement sont des oxymores, mais sont aussi, moi j'irais jusqu'à dire, toxiques, parce qu'ils nous laissent croire qu'on peut continuer à faire croître nos consommations et nos productions tout en baissant 3,7 planétaires à une planète. J'aimerais qu'on explique comment ça marche. Pour le moment, de manière continue, notre empreinte écologique dans nos pays, elle augmente. N'oubliez jamais que lorsque la France dit qu'elle fait baisser ses émissions de gaz à effet de serre, c'est parce qu'elle les compte en approche territoire. On compte les émissions du territoire de la France, des activités en France. Si vous prenez l'approche consommation, c'est-à-dire on compte comme émissions de gaz à effet de serre tout ce qui est lié à ce que vous consommez, même si votre téléphone, comme le mien, il vient de Chine, l'empreinte écologique des Français, l'empreinte carbone, pardon, des Français, ne cesse d'augmenter. Elle n'a pas diminué d'1%. Et c'est pas pour rien que les chiffres qu'on doit envoyer à l'ONU sont sur l'approche territoire et pas sur l'approche consommation. Ça permet aux pays développés de cacher le fait qu'en fait, ils ne sont pas du tout en train de faire décroître leur empreinte écologique. Cet accès inégal, si on prend la métaphore du jour du grand dépassement, on voit à quel point il est différencié selon les pays, puisque vous avez la planète au milieu, vous avez un calendrier circulaire, c'est janvier, février, etc. Vous voyez comment c'est différencié selon les pays, avec le pire pays du monde, c'est le Qatar, qui atteint la date le 11 février. Ben, Qatar, Luxembourg, on est aux alentours de 15 planètes. Hein. Ben, c'est un pays pétrolier, on voyage beaucoup en avion, on a... Bon, bref. Le pays le moins insoutenable, parce que les pays qui sont sous une planète, ils n'apparaissent pas. Ils sont avant le 1er janvier, on s'entend. Le pays le moins insoutenable, c'est l'Indonésie, 18 décembre. La France, elle, elle est là, c'est le 14 mai. Mais quand même bien, bien avant la moitié de l'année, en France. Voilà, et puis sinon, bon, les États-Unis, c'est le 15 mars. Je ne rentre pas dans le détail. Voilà pour l'empreinte écologique, qui est un agrégat qui a son avantage, ça permet de donner une image globale, qui a sa limite, c'est-à-dire c'est un gros de l'agrégat, ça donne un ordre de grandeur, mais c'est pas fin et détaillé, parce que finalement, on est quand même ensemble des émissions de gaz à effet de serre et l'usage de minerais. Donc, c'est un bon outil, mais il est limité. Allons un peu plus dans le détail, avec le second modèle, et vous avez vu, hein, je l'ai mis, je reviens un peu en arrière, en bas à droite, la source, c'est le Global Footprint Network, qui est la grande organisation qui fait ces calculs-là, et cet indicateur est entré entre-temps dans les rapports annuels de l'ONU sur le développement. Donc c'est reconnu vraiment au niveau international. Les 9 frontières planétaires, c'est le Stockholm Resilience Center qui le publie, et c'est un modèle qui s'est vraiment imposé au niveau international pour quantifier la question de la crise écologique, et il identifie ce qu'on appelle des frontières. Les frontières, elles n'ont pas des limites. Ici, le jeu conceptuel étant de dire la limite, c'est si on veut une frontière absolue. Le mur, pour mon corps, c'est une limite. Je peux vouloir dépasser le mur, mais si je rentre dedans, je m'arrête au mur, quoi. Je ne peux pas aller plus loin. La frontière, c'est une limite relative. Si je suis au Canada et que j'ai envie de prendre et de me balader aux États-Unis sans mon passeport, en passant par la forêt, je peux le faire. Je peux dépasser cette limite-là. Mais si je rencontre un policier, je vais avoir des problèmes. Donc la frontière, la différence, c'est que je peux la dépasser pendant un temps. Les 9 frontières planétaires identifiées sont la perte de biodiversité, les changements climatiques, la pollution, la déplétion de l'ozone stratosphérique, qu'on appelait le trou dans la couche d'ozone qui est en train de se résorber, c'est une des rares mais vraies bonnes nouvelles, la charge atmosphérique en aérosol, les aérosols c'est ces fines particules en nuages dans l'atmosphère, une tempête de sable, c'est un aérosol, mais c'est aussi une pollution. L'acidification des océans, en n'oubliant pas, c'est un thème dont on ne parle pas trop, mais que les océans se sont acidifiés de 30% depuis le début de la révolution industrielle. Pour ceux qui se souviennent de leur cours de chimie, le pH de l'océan a baissé de 0,1. Les changements des flux bio-géochimiques, et d'ailleurs ce mot barbare, ce sont les cycles en fait de l'azote et du phosphate dans le sol. d'où une image de l'agriculture, et je sais qu'on a des gens qui sont spécialistes dans la salle, ou qui en savent bien plus que moi encore sur ces questions. L'usage des sols, bien entendu, avec une photo de la déforestation, mais ça pourrait être une photo d'une mine de charbon ou de minerai, et l'usage de l'eau douce. Ces 9 frontières, on peut les organiser en cercles. Le cercle sera un peu la figure géométrique symbolique de la soirée, avec 2 d'entre eux qui sont orange quand les autres sont écrits en gris, climat et biodiversité. Pourquoi ? Parce que selon ce modèle scientifique-là, la biodiversité et le climat peuvent chacun à lui seul, si la frontière est dépassée dans la zone de grande dangerosité, mener le système Terre dans un nouvel état. Donc climat tout seul, biodiversité toute seule, quand les autres, pollution, charge en aérosol, etc., doivent fonctionner 2 ou 3 ensemble, dans un effet cocktail, pour pouvoir mener le système Terre dans un nouvel état. Donc on a un caractère plus sensible de la biodiversité et du climat. Au cœur du cercle, il y a ce qu'on appelle un espace d'opération sûr pour l'humanité. Si on ne franchit pas les frontières, on reste systémiquement dans une terre qui est habitable, qui accueille la vie, qui est favorable. N'oublions pas que nous sommes dans une ère géologique. Vous verrez tout à l'heure, il y a une question, mais nous avons été jusqu'à présent dans une ère géologique qui s'appelle l'Holocène, qui est une ère de très grande stabilité climatique et d'autres paramètres. Ça fait 12 000 ans qu'on est dans l'Holocène. L'agriculture, l'écriture, les grandes civilisations, tout ça s'est développé dans cette période géologique-là. Alors que notre espèce, Homo sapiens, elle a 200 000 ans, après on peut discuter les dates, mais c'est environ 200 000 ans, tout cela n'a été inventé que dans les 3, 4, 5, bon l'agriculture c'est il y a 10 000 ans, mais l'écriture il y a 3 000 ans, etc. Tout ça s'est développé parce que la nature autour de nous était relativement stable. Sur les 9, il y en a 7 qu'on sait quantifier, il y en a 2, on a toujours un problème méthodologique. Sur les 16 qu'on sait quantifier, il y en a 4 qui ont été franchis. 2 sont dans la zone jaune de dangerosité déjà avérée, mais croissante. Usage des sols, changement climatique. Changement climatique, on est à plus 1 degré, on n'est pas encore à 3, plus 3, plus 4, plus 5. Perte de biodiversité et flux de l'azote et du phosphate. On est déjà dans la zone rouge, la zone de grande dangerosité. On est dans un dépassement très large de la frontière écologique. Notez que les 2 qui sont systémiques, biodiversité et climat, sont tous les 2 dépassés. Notez, bon, il y aurait plein de commentaires à faire. Biodiversité, on en parle de plus en plus, mais quand même encore beaucoup moins que le climat, tandis que d'un point de vue scientifique, c'est au moins aussi important. Donc ça ne reflète pas aujourd'hui l'importance que ça a d'un point de vue scientifique. Quant au flux biogéochimique, on n'en parle quasiment pas, c'est aussi très complexe, mais c'est très très inquiétant et c'est un sujet qui devrait être beaucoup plus prégnant dans nos travaux. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a, je crois que c'était il y a un mois maintenant, des 2 équipes françaises qui participent au rapport du GIEC, c'est-à-dire au groupe international d'experts sur le climat, ont rendu leur contribution au prochain grand rapport. Selon les équipes du CNRS et de l'Institut Laplace en France, les projections sont plus graves qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on estime qu'en fait, les deux degrés de réchauffement, c'est trop tard, on les atteindra en 2040, ils sont maintenant dans les tuyaux. Ça fait 30 ans qu'on dit, la fenêtre est en train de se fermer, elle est fermée. La seule manière de retourner sous les 2 degrés ou sous les 1,5, ça va être dans la deuxième partie du 21e siècle, d'un point de vue purement théorique, de tirer du carbone hors de l'atmosphère et de le stocker dans le sol, qui pose un milliard de questions éthiques. Si on reste sur une trajectoire où on continue comme avant, trajectoire de croissance économique de 2-3% par an, etc., pendant l'ensemble de notre siècle, à la fin du siècle, ce n'est pas 4,8, qui était la précédente projection, c'est entre 6,5 et 7 degrés de réchauffement. Et davantage ensuite, parce qu'on s'arrête en général à 2100, parce que le siècle c'est symbolique, on se dit voilà, c'est une ça ne s'arrête pas. Et le changement climatique qu'on est en train de provoquer, les scientifiques nous disent, il est là pour au moins 1000 ans. C'est plus que 1000 ans même, selon la quantité de carbone qu'on va mettre dans l'atmosphère. Donc c'est pas 3 générations dont on parle, c'est pas vos enfants et vos petits-enfants, c'est 40 générations dont on parle. Donc l'urgence, non seulement elle est présente, mais elle est absolue. On devrait avoir une réponse de type, il y a un pays qui nous attaque, c'est la guerre. On devrait être en contexte, on devrait passer en économie de guerre, c'est-à-dire, et c'est même pas juste notre vie et notre nation qui est mise en danger là par un ennemi X ou Y, c'est pour l'ensemble de l'espèce sur des dizaines de générations. Quand Greta Thunberg est venue et dit aux dirigeants du monde, vous êtes en train de nous abandonner. Et le pire, je ne m'adresse pas à vous là, les dirigeants savent. Donc vous nous abandonnez de manière consciente. Si vous continuez comme ça, nous les jeunes, on ne vous parlera jamais. Parce que vous faites le choix que dans la partie de vie où moi je serai adulte, d'ailleurs moi je serai plus âgé, mais en 2050-2060, quand il y aura les premières, ça se trouve il y en aura même avant, mais très grosses crises liées à ça, je serai vivant. Donc vous nous abandonnez. C'est aujourd'hui, ça compte pour demain. On rentre en territoire inconnu, ce sont les mots de l'Organisation météorologique mondiale. 6,5 7 degrés, c'est pas ce qui se passe. Je ne dis jamais que les glaciations, déglaciations, c'est 3-4 degrés différents. 6, 7, on est presque double. On ne sait pas ce que ça donne. Certains scientifiques estiment qu'on est entré dans ce qu'on appelle l'anthropocène, donc on aurait quitté l'époque géologique qui s'appelle l'Holocène, et on serait entré dans l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère de l'être humain, parce que toutes les caractéristiques du système Terre aujourd'hui sont impactées par l'homme. Si je sors là un arbre sur la place, je prends une feuille, je l'analyse chimiquement, je peux vous dire quel pourcentage de CO2 qui a été utilisé par la feuille, par l'arbre pour créer la feuille, provient de la combustion des énergies fossiles, c'est-à-dire combien de CO2 provient des pots d'échappement de la rue d'à côté, et quel est le CO2 naturel, parce que chimiquement, c'est pas le même. Dans toutes les feuilles d'arbres du monde, on voit la trace de l'homme. Dans des millions d'années, dans les sédiments, on verra la trace de l'homme, parce que les essais nucléaires qu'on a fait dans les années 60, ils ont laissé des traces de radioactivité. Dans des millions d'années dans les sédiments, on trouvera la trace de l'homme parce qu'il y a des microplastiques partout. On en a trouvé dans les plus grandes fosses à 2000 mètres de profondeur dans les océans. Donc, où que vous alliez, il y a notre trace. Et le risque est celui d'un effondrement. Je ne rentre pas dans ce grand dossier ce soir. Est-ce que, quelque part, la question n'est pas la date, la question est celle de la tendance, est-ce que quelque part, dans les décennies qui viennent, ce n'est pas simplement des difficultés qu'on va avoir, mais c'est un effondrement du système mondialisé. D'où certains qui, enfin bon, essayent déjà de penser la vie d'après. Comment est-ce qu'on prépare les graines pour quand les choses s'effondrent et les choses qui sont prêtes à prendre la place. Face à cela, depuis les années 1960, un dialogue entre les chrétiens s'est noué. Et vraiment, ce n'est pas quelque chose de neuf, hein, c'est quelque chose qui date. Qui a mené aujourd'hui à un consensus théologique, et l'image que je vous propose est cette image d'une belle église en Nouvelle-Zélande, qui a un toit végétalisé, qui a le cimetière à côté, un cimetière où vous voyez aussi qu'il est très vert, qui est situé dans la nature. Voilà, c'est une belle image, une belle église en bois. Donc ce dialogue, il est ancien, il est quasiment aussi ancien en fait que la date à laquelle l'humanité a commencé à consommer plus que la Terre ne fournit. Et ce, notamment, pour les années 60. Ensuite, c'était beaucoup plus large, mais dès les années 60, le conseil œcuménique des églises, c'est-à-dire, c'est pas une communion d'églises, c'est une fédération, une fraternité d'églises, protestante et orthodoxe, avec le premier grand discours sur l'écologie en 1961, Joseph Peter, et puis la mise en œuvre de ce qu'on a appelé le processus justice, paix et sauvegarde de la création, qui en Europe s'est incarné de manière plus large avec les catholiques dans les rassemblements, par exemple de Bâle en 1989, justice, paix, sauvegarde de la création. Et ce qui était nouveau, c'est d'adjoindre sauvegarde de la création à justice et paix. Et de comprendre que, si on veut, c'est déjà une vision écologique, que tous ces sujets-là sont liés. D'ailleurs, ce n'est pas autre chose que dit le pape François dans Laudato Si, lorsqu'il parle d'écologie intégrale, il dit qu'on entend le cri de la terre et le cri des pauvres, et la crise écologique et la crise sociale ne sont pas deux crises différenciées, c'est la même crise. Les premières victimes de la crise écologique, ce sont les plus pauvres, qui sont plus vulnérables, et les premiers responsables de la crise écologique, ce sont les plus riches, qui ont toujours une empreinte écologique plus importante. Donc il y a des liens là, et bien sûr, quand il n'y a pas de justice, comme le dit le psalmiste, hein, justice et paix s'embrassent. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix possible. Au contraire, on a des conflits. On a des conflits entre classes sociales, on a des conflits entre nations, on a déjà aujourd'hui des conflits de l'eau, etc., etc. Donc, un dialogue, en l'occurrence dans les années 60, protestant-orthodoxe, où les orthodoxes ont joué un rôle important parce que le christianisme oriental n'a pas perdu comme le christianisme latin. le rapport à la création, l'importance de la confession du Dieu créateur, et notamment la place de cela dans la liturgie. La liturgie orthodoxe, elle commence 1er septembre par un grand accent sur la question de la création. Donc on a beaucoup appris, orthodoxe, du côté protestant. Peut-être savez-vous que le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, aujourd'hui, est appelé le patriarche vert, parce qu'il porte cette question-là depuis le début, et dans son ministère, et ils organisent des colloques, etc. À l'époque, quand François Hollande était allé visiter les Philippines, il y allait avec Bartholomée, avec le patriarche orthodoxe. Donc voilà, il y a là un apport qu'il faut reconnaître, c'est une richesse qu'il apporte au christianisme du côté orthodoxe. Ce dialogue, qui date donc d'il y a plus d'un demi-siècle, est aujourd'hui renouvelé du fait de la publication en 2015, 6 mois avant la COP21, de l'encyclique Laudato Si, qui d'ailleurs, il y a des gens qui le savent mieux que moi, mais qui a été définie par le pape François comme une encyclique entrant dans la doctrine sociale de l'Église. Et ça met bien encore l'accent sur le fait que la question écologique n'est pas une question purement environnementale. Il ne s'agit pas simplement des oiseaux et des petites fleurs qui sont fondamentales en soi, mais de la manière dont l'être humain participe de la toile de la vie, de la création au sens propre, c'est-à-dire c'est une créature parmi d'autres créatures, et comment la question de l'environnement a des impacts sociaux. Donc ce dialogue, il a vraiment été renouvelé. D'ailleurs, c'est un des exemples de dialogue où on en parlait à table avant de venir. La volonté du pape d'ouvrir un dialogue, c'est dans l'introduction de l'encyclique, elle a très bien fonctionné, puisque c'est un texte qui a été superbement reçu par la société civile, qui est plusieurs. Moi, j'étais à l'Élysée quand il a été remis à François Hollande, l'encyclique. Et de nombreux chefs d'État attendaient l'encyclique parce qu'elle a donné un signal fort et elle a eu un vrai impact dans les négociations qui ont mené à l'accord de Paris et à la COP21. Donc on a là un texte qui a vraiment permis de faire circuler la parole au sein d'une confession, de faire circuler la parole entre confessions chrétiennes. Combien de fois j'ai été invité dans un duo avec un intervenant ou une intervenante catholique pour parler de l'écologie dans un dialogue autour de Laudato Si. Les orthodoxes, ça arrive aussi, mais c'est plus complexe parce que comme ils sont très très peu nombreux en France, c'est toujours difficile d'en avoir un. Je ne sais pas quelle est votre expérience locale, mais c'est pas évident toujours d'avoir un compère orthodoxe. Mais donc on a eu un dialogue entre chrétiens et plus largement avec la société. Vous voyez Cécile Duflot, femme politique engagée, à l'époque encore à Europe Écologie Les Verts, qui dit « J'ai lu l'encyclique, j'ai eu l'impression de rentrer à la maison. » Et il a été... Il y a même des fois, je me demande si la réception n'a pas été plus positive et plus large encore dans la société civile séculière que dans certains lieux ou dans certaines régions du catholicisme. Donc vraiment, on a un thème qui permet de discuter avec la société au sens large. Le consensus, quel est-il? Donc là, je rentre un peu plus dans la question purement théologique. Et vraiment, on se rend compte qu'il y a des nuances, il y a des accentuations différentes, il y a parfois des éléments propres à chaque confession, mais globalement, c'est vraiment un lieu de consonance entre confessions. Je vous ai tout simplement mis le début du credo, qui dit tout en fait, qui dit tout mais qu'on a oublié. Déjà, quand on le récite, bien souvent, c'est quand même la deuxième partie qui est la plus large, c'est quand même la deuxième partie qui est la plus importante. Même l'Esprit Saint, la troisième partie, le troisième article du credo est parfois un petit peu oublié. La théologie, encore une fois, occidentale, depuis le XVIe siècle, mais aussi au XXIe siècle, était très centré sur Jésus-Christ, presque christomoniste, comme on dit, et un Jésus-Christ dont on ne voyait pas du tout une dimension cosmique, mais dont on réduisait la pertinence et le projet et le discours à l'être humain. Aujourd'hui, on redécouvre l'article de la confession du Dieu créateur en théologie. Moi, j'ai eu entre les mains un ouvrage de bibliographie. En langue anglaise, il y avait 5000 entrées de théologie écologique. 5000, c'est énorme. Donc il y a une production de littérature théologique très importante. Et donc, d'une part, on redécouvre ce qui fait partie de notre tradition, ce qui fait partie de nos écritures, et notamment dans le monde anglophone a été édité ce qu'on appelle une Green Bible, donc c'est une Bible où ils ont mis en gras et en vert tous les passages qui parlent de la création, des autres créatures ou du lien de l'homme à la création. Et il y a diverses parties. Songez au fait de l'alliance de Noé, où l'alliance est faite avec tous les êtres vivants. Je veux dire, l'Arche de l'Alliance, c'était le premier grand projet écolo. Hein. C'était, bon ok, je fais une sorte de redémarrage de la création, mais je sauve chaque espèce. Aujourd'hui, on voit la biodiversité qui disparaît, où on voit que peut-être en 2050, c'est 20% du vivant sur Terre qui a disparu. C'est contraire absolument au projet de Dieu qui a été de sauver chaque espèce vivante. C'est un mythe, hein, c'est un texte qu'on s'entend, mais la volonté théologique, elle est claire. Et il a fait alliance avec tous les êtres vivants. Croire en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le ciel et la terre, c'est, on appelle ça en littérature un mérisme, c'est-à-dire on dit, on prend deux opposés pour signifier l'ensemble. J'ai fait le ménage de la cave au grenier, j'ai tout fait. Tout l'être, toute matière, toute énergie, toute créature, qu'elle soit une plante, un animal, un être humain, toute donnée réelle, que ce soit un être vivant, une montagne, une rivière, une galaxie ou le grand vide intersidéral, tout partage la condition de créature. C'est-à-dire que, si on prend ça au sérieux, avant qu'il y ait des différences, et parfois des différences qualitatives, entre les êtres, il y a une mêmeté, il y a une identité. Nous partageons tous la caractéristique d'être créature, d'avoir été créé. Et c'est d'abord ce qui nous rassemble, avant que dans un deuxième temps, on fasse des distinctions, et importantes. Je ne crois pas que la théologie chrétienne aille vers, et d'ailleurs je ne l'ai jamais lu, ce qu'on appelle l'antispécisme ou le biocentrisme, c'est-à-dire l'idée qu'un ver de terre ou un insecte, ou etc., en soi, vaut autant qu'un être humain. Ça, c'est pas le genre de discours dans lequel on va, mais on redécouvre aujourd'hui, pour rééquilibrer en sens inverse, l'importance et la dignité et la valeur propre, intrinsèque, de chaque créature. C'est d'ailleurs aussi un des actes du pape dans l'encyclique Laudato Si, de remettre en avant la valeur propre de chaque créature. Nous, humains, sommes des créatures distinctes, aussi et peut-être d'abord en cela que nous avons la liberté de choisir le bien ou le mal, la vie ou la mort. Nous sommes responsables devant Dieu, et si je voulais résumer cette responsabilité en une phrase, je dirais « Soyons de bons lieutenants du Dieu créateur au sein de la création bonne et brisée dont tu fais partie et dont tu dépends. » Alors, faut que je fasse gaffe parce que je pourrais entrer dans un cours de théologie, c'est pas le propos ici. Il y a différentes choses, peut-être il y a des choses qui sautent à vos yeux, qui apparaissent. Création bonne et brisée, c'est important pour moi de le dire parce que théologiquement, nous reconnaissons l'existence de ce qu'on appelle en théologie le péché. Disons-le maintenant avec d'autres mots, c'est de dire il y a dans la réalité de la création quelque chose de l'ordre d'une brisure, d'une fêlure, d'un inaccomplissement ou d'un inachèvement qui fait que ben, la vie sur Terre, c'est pas seulement la coopération, c'est aussi la prédation. C'est pas seulement la symbiose entre les arbres et les champignons, c'est aussi le parasitisme. Et là, je suis un peu, quand le pape parle la tendre caresse de tous les êtres vivants, moi j'ai eu le paludisme au Brésil, le paradisme, il ne m'a pas fait une tendre caresse. Hein. Et encore, c'est un exemple, bon là aussi, j'ai passé 15 jours à l'hôpital, puis j'ai rapatrié, c'était la fin de mon tour du monde, j'ai pu aller à l'hôpital, parce que je viens d'un pays où j'ai une sécurité sociale et où l'hôpital, il savait que j'allais payer d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens, tout simplement, ils en ont. Donc, gardons-nous, et comme écologiste et comme chrétien conscient de la crise écologique, d'une romance ou d'une sorte d'idéalisation et de vision romantique de la nature. La nature, elle est bonne, elle demeure tout bon, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la brisure. Et lorsque Dieu promet la nouvelle création de toutes choses, la fin des larmes et de la souffrance, etc., c'est aussi de dire je vais dépasser cette brisure pour aller vers une création en plénitude. Je parlais de lieutenance. Souvent, dans le christianisme, on a dit qu'on est censé être les bons intendants de la création. Ça, c'est notre rôle. En théologie, aujourd'hui, on s'éloigne de la notion d'intendance parce qu'elle donne l'impression qu'en fait, on peut être gestionnaire, on peut gérer la création comme on peut gérer une maison. Alors qu'en fait, si on a un impact sur la création, c'est un orgueil et un hubris démesuré de croire qu'en fait, on est derrière un tableau de contrôle. On ne maîtrise pas la nature. Donc on s'en éloigne, on parle plutôt aujourd'hui de lieutenance. Pourquoi ? Alors on va y venir. Notamment, du fait de ce verset, qui a été beaucoup commenté et qu'on a beaucoup jeté à la figure des chrétiens dans le mouvement écologique, en disant « ça c'est une des racines de la crise écologique ». Genèse 1.28, Dieu les bénit et leur dit « soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes bêtes qui remontent sur la terre ». Et lorsqu'on regarde l'hébreu, les deux verbes « dominer » c'est « kavash » ou « soumettre » c'est « rada » et ces deux verbes « Dieu ». On ne peut pas juste dire « non mais dominer » ça veut dire « soyez gentil » et « soumettez » ça veut dire « ah on est un petit peu au-dessus mais bon ». Non, c'est les verbes « dur ». Soumettre, c'est par exemple le verbe qui est utilisé quand un roi bat un autre roi, qui met sa tête au sol et qui met le pied sur la nuque du roi vaincu, ça c'est soumettre, c'est rada. Donc ce n'est pas des verbes faciles, mais tout bon théologien et tout bon lecteur d'un texte ne sort pas une phrase de son contexte, et il suffit d'aller pas très loin. Vous allez au verset suivant, où Dieu donne à l'humanité expressément une certaine alimentation, une certaine diététique. Est-ce que vous vous souvenez, selon Genèse 1.29, ce que nous sommes censés manger comme être humain? Mais je sais, il y en a dans la salle, tout ça. Pardon?
On est censé être végétarien.
Végétarien?
Graines.
Végétalien, graines. Effectivement, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont vous porte la semence, ce sera votre nourriture. Idéal originel, Genèse 1, premier chapitre de la Bible, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de viande. Beaucoup lisent d'ailleurs l'idée selon laquelle il n'y a pas d'agriculture. Donc il n'y a pas non plus d'instrumentalisation de l'animal ou du vivant pour se soutenir. Et la grande lecture que font la majorité des biblistes et des théologiens consiste à dire, au Proche-Orient antique, on considérait que les végétaux n'étaient pas des êtres vivants. On considérait que ça faisait partie du cadre inerte de la création. Les végétaux n'avaient pas de sang, ils n'ont pas de nefesh en hébreu, ils n'ont pas d'âme ou de souffle. Et donc, quand l'auteur du premier récit de la création postule un végétalianisme ou un véganisme originel de l'humanité, l'idée, ce n'est pas une recommandation diététique, c'est de dire, vous soutiendrez votre vie en consommant ce qui n'est pas vivant. Vous n'aurez ni besoin d'instrumentaliser, ni besoin de tuer le vivant pour vivre. C'est ça l'idée d'originel, donc c'est un idéal de non-violence, d'harmonie entre les êtres, et de respect du vivant. Et lorsque vous avez cette vision-là, si on revient un coup en arrière, la domination et la soumission ne peuvent pas être compris comme donnant licence ou droit ou blanc-seing à l'être humain, déjà pour aucun usage que ce soit, surtout pas pour la mort. Et alors, si on parle de l'industrie de la viande actuelle, 1000 vaches dans une même ferme, 100 000 poulets qui ne voient jamais le jour, qui n'ont jamais les pieds sur le sol, des tomates, 90% des tomates en France sont faites sans jamais avoir une racine dans la terre, etc. Ça, c'est pas du tout ce qu'il y a derrière ce texte. Je ne peux pas entrer dans une vraie exégèse complète, mais ce qu'il y a derrière ce texte aussi, c'est fait au Proche-Orient antique, chez la majorité des peuples autour d'Israël. L'être humain n'est pas du tout valorisé, c'est un esclave des dieux. Et Israël prend un peu le contre-pied de ça en honorant l'humain et en disant non, non. Tu as un rôle dans la création et c'est toi qui domines, c'est toi qui soumets. Mais comme il n'y a ni utilisation ni consommation, c'est plus honorifique, ça dit plus quelque chose de l'homme que ça ne dit quelque chose de sa relation avec le reste. Bon, il y aurait d'autres choses à dire. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je m'arrête là sur bon, quelque part, le protestant, ça dit qu'à un moment donné, la Bible dans la présentation. L'enjeu aujourd'hui, on comprend parmi les chrétiens comme un enjeu intégral, c'est-à-dire que travailler sur la question écologique, c'est travailler sur toutes les autres questions traditionnelles d'engagement des chrétiens, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les migrations forcées et pour l'accueil des réfugiés. Je prends juste ces deux exemples-là. La pauvreté, la Banque mondiale a dit, si on a 2 degrés de réchauffement, et 100 millions de personnes qui retombent dans l'extrême pauvreté en 2030. Dans 10 ans. 100 millions de personnes, c'est le nombre de personnes qu'on a réussi à sortir de l'extrême pauvreté avec les objectifs du millénaire pour le développement en 15 ans. C'est-à-dire tout le progrès qu'on a fait sur la pauvreté, le climat, il l'abat en une décennie. Sans parler de ce qui se passe en 2040, 2050. Les migrations, déjà aujourd'hui, plus de 50% des migrations forcées dans le monde sont dues à des causes environnementales et climatiques. Pas à des conflits. Les conflits, c'est déjà moins de la moitié des migrations forcées. Et vous savez que, alors les quantifications sont difficiles, les points méthodologiques sont nombreux et complexes, donc je n'avancerai pas de chiffres, mais c'est des dizaines, des centaines de millions de migrants, pour le moins, dans les décennies qui viennent, majoritairement sud-sud. Il y aura aussi du sud-nord, mais relativement peu. Les gens, ils vont bouger pas très loin, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'emmener toute leur famille à l'autre bout du monde, quand ils ne sont pas eux-mêmes piégés. Ça, c'est une chose dont on parle de plus en plus. La migration, bien sûr, c'est regrettable, mais au moins, c'est une trajectoire. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir bouger de là où ils sont. Ils seront piégés dans une zone qui va devenir inhabitable, et donc ils vont mourir. Au moins, la migration permet de survivre un peu ailleurs. On est donc dans un kairos, dans un moment opportun, dans son ambivalence, c'est le moment à saisir, et inversement, s'il est passé, il est passé. Que j'aimerais mettre en avant, c'est que la question écologique, c'est pas seulement le risque, ce sont aussi des promesses. Parce que cette conversion écologique, c'est la formule du pape François, lorsqu'elle est mise en œuvre, c'est pas une simple réponse devant une menace, c'est aussi une belle opportunité. Et c'est important aussi de le voir comme ça. Parce que vivre une conversion écologique individuellement ou collectivement, mis à part toutes les difficultés qu'on connaît, c'est la juste chose à faire. C'est comme ça qu'on est en communion avec le Dieu créateur, qu'on répond à l'amour de Dieu par l'amour pour le reste de la création et des créatures. Et évidemment, qu'on crée les conditions pour une création habitable et bonne pour tous les vivants. Ce dialogue qu'on a eu, et dont j'ai présenté le consensus, aujourd'hui, à mon sens, c'est à élargir à plus d'acteurs, parce que de nombreuses églises soit résistent à cette question d'écologie, d'ailleurs même chez nous, dans la réception de la Laudato aussi, elle n'est pas intégrale chez les catholiques, la réception des textes protestants ou orthodoxes, elle n'est pas intégrale chez les protestants et les orthodoxes, et en particulier dans ce qu'on appelle dans le monde protestant le monde dit évangélique, bien que nous aussi on est quand même un peu évangélique aussi, mais donc dans cette tendance-là, où on a des vraies difficultés théologiques, où ils disent mais finalement, bon, Dieu dit la. Il va y avoir une fin du monde, ça va se passer dans le feu et la chaleur, le changement climatique et la volonté de Dieu. Donc on a des vrais lieux de débat et un dialogue à poursuivre, à élargir, à approfondir avec ces tendances-là. Et puis, il est à élargir à plus de sujets, parce que la question écologique fait émerger des sujets nouveaux. Climat, bien sûr, on en a beaucoup parlé, mais quel discours chrétien aujourd'hui sur le bien-être animal, sur la question de la destruction de la biodiversité, et moi je résiste à la terminologie de la perte de biodiversité. La biodiversité, elle ne se perd pas. C'est nous qui la détruisons. C'est pas la même chose. Une espèce ne disparaît pas. Elle n'est pas passée sous le tapis. Elle a été éradiquée. Donc il y a une sorte, dans notre langage, il y a une sorte qu'on couvre d'un voile le fait que nous soyons à l'origine de ça. Quel discours chrétien sur la notion d'effondrement? Lorsqu'on dit le risque c'est l'effondrement, c'est la fin d'un monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Comment est-ce qu'on articule ça avec l'eschatologie, par exemple, en chrétienté? Donc, bon, il y a des questions qui émergent, qui demandent qu'on continue à faire de la théologie, qu'on continue à discuter de ça. Et puis, c'est un dialogue, bien sûr qu'il faut qu'on ait entre nous, qu'on élargisse à d'autres acteurs, qu'on approfondisse, mais aussi qu'il faut qu'on communique. Parce que c'est très bien si les théologiens discutent entre eux, c'est très bien si on a plein de publications, c'est très bien si les églises comme institution écrivent des textes, mais s'il y a un fossé entre ce qui s'écrit là et ce qui se reçoit parmi les chrétiens dans les communautés, dans les églises, c'est comme si on n'avait rien écrit. Donc il y a un vrai enjeu, et là charge aux théologiens, charge aux institutions, de faire passer cela et qu'il y ait une véritable réception, moi j'aime pas dire à la base, je veux dire quoi, parmi les communautés et les croyants. Comment, partant des données scientifiques et de l'urgence qu'on reconnaît, de nos convictions et du fondement qu'on a pour agir, en humilité, parce que les chrétiens, quand même, ils arrivent un peu tard sur cette question, mais dans une conviction fermement enracinée, comment est-ce qu'on agit? Et c'est toujours la troisième partie des présentations, que faire? Parce qu'on a un sujet éminemment orienté de manière pratique, le consensus théologique c'est très bien, il faut que ça donne derrière un fruit qui a un impact sur le monde. Et peut-être d'autant plus chez nous, où les églises, le nombre de gens diminue, etc. Moi j'aime beaucoup ce que dit le secrétaire général de la Fédération Luthérienne Mondiale, qui s'appelle Martin aussi, Martin Newman, il dit, attendez, c'est quoi la citation? Ça me donne l'occasion de voir. Ce n'est pas parce qu'une église est grande ou nombreuse, bon, il le dit en anglais, donc c'est grande, big, c'est pas parce qu'une église est grande qu'elle a un impact, c'est parce qu'elle a un impact qu'elle est grande. Vous pouvez être 15 dans votre paroisse, si vous avez un impact localement, je sais pas, sur un projet de jardin partagé, sur une lutte militante contre un projet écologique, non écologique inutile, des choses comme ça, vous êtes une grande église. Soyez 15 ou vous soyez 500. Comment agir? Il y a trois grands niveaux d'action. Un, l'engagement individuel, évidemment. Et il y a des chrétiens qui s'engagent, qui prennent des engagements publiquement. En l'occurrence, le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, dont je viens de dire que du côté évangélique, ce n'était pas évident. Du côté de leur leadership, pour le moins, ça ne pose pas problème. Ce monsieur, l'évêque Ephraim Senzero, a décidé de devenir végétarien et d'alimenter son énergie à 100%, pardon, sa maison à 100% de l'énergie renouvelable. Gretchen Cassel, qui est la secrétaire générale du groupement international des Quakers, a décidé, qui ne s'identifie pas nécessairement comme chrétien, a décidé de, là aussi, fournir sa maison entièrement en électricité provenant des renouvelables. Au-delà de l'engagement individuel, il faut aller dans de l'engagement collectif. Et on va parler tout à l'heure d'église verte. Et enfin, il y a un engagement au niveau politique. Avec ici une image, lorsque nous avons remis 1,8 million de signatures de croyants de toute tradition à François Hollande et Nicolas Hulot, c'était à la fin de la COP21, le 10 décembre 2015. Et vous voyez qu'il y a, un bouddhiste, il y a un représentant de musulmans, etc., etc. Interpellation du politique égoïste. Les trois niveaux sont nécessaires. Et j'insiste toujours là-dessus, et je vous mets l'image d'un râteau. Alors, mais pourquoi il parle de râteau maintenant? L'automne arrive, si vous devez ramasser les feuilles dans votre cour avec un râteau à une dent, je vous souhaite bien du courage. Quand vous avez deux dents, ça marche déjà mieux, et puis avec trois, ça commence à être confortable. Oui, je suis d'accord, il en faudrait plutôt qu'un. Mais pour la métaphore, ça marche. Donc, il y a besoin de ces trois dents-là, et je le dis pourquoi, parce que vous entendrez souvent, peut-être entendez-vous d'ailleurs déjà, des gens qui vous disent, non, mais pour changer le monde, il faut d'abord se changer. C'est au niveau individuel que tout se joue. Mais c'est quand même un peu ce vers quoi tend Pierre Rabhi et le mouvement des colibris, avec une tendance à disqualifier le politique. Inversement, il y a des gens qui vous disent « Ah non, mais l'individu, il ne peut rien, c'est quoi, des petits neufs. Ce qui joue, c'est les multinationales, c'est les États. » Puis il y a des gens qui vous disent « Ah non, mais les États, ils n'ont plus aucun pouvoir. L'État, il décide de rien, l'État, il suit, les lobbies, machin, tout ça. C'est la société civile qu'il faut mobiliser. » Pour moi, les trois sont dans l'erreur. Parce que les trois niveaux ont un impact. Et les trois niveaux doivent fonctionner ensemble et de manière coordonnée pour être efficaces. Combien d'exemples l'individu est prêt à bouger parce que la loi ne le permet pas, vous ne pouvez pas avoir un impact total. Combien d'exemples le politique bouge et fait une loi, et parce que les comportements individuels ne sont pas adéquats, cette loi est inefficace. Donc, c'est quelque part, il faut une action intégrale, dans le sens où il faut que les trois niveaux soient présents, soient liés, soient en lien, soient en dialogue, pour que ça fonctionne. Si le politique avance sans parler aux citoyens, ou si le citoyen avance sans faire bouger le politique, vous n'y arrivez pas. Donc, il faut que la parole circule, et que ce soit coordonné. Alors j'avais prévu de parler un peu plus en détail des actions individuelles. Je ne vais pas le faire, parce que je vois que je parle beaucoup, j'arrive à la fin de mon temps de parole. Mais je vous laisse quand même avec trois idées, trois pistes de choses que vous pouvez faire en partant. Un, je parle. J'étais à Lourdes, j'ai fait une conférence, j'ai montré cette diapo, la diapo, c'était encore à l'époque, je pars en vacances dans mon pays. Et moi, ah, monsieur Kopp, l'Espagne, c'est plus proche que l'Alsace. Hein. Elle dit, ah, vous avez raison. Vous avez une presse chez moi. Et c'est relatif, hein. C'est pas le Kenya ou l'Argentine ou la Thaïlande, hein. Bon, c'est ça, ou l'Inde. Deux, je mange moins de viande. Je ne vais même pas aller jusqu'à dire qu'il faudrait en fait suivre Genève 1. Je dis réduire. Végétaliser les assiettes, c'est une des choses les plus efficaces. La viande émet plus de gaz à effet de serre que tous les transports du monde réunis. Trois, je suis moins actif. En général, c'est la diapo qui plaît à tout le monde.
Non.
J'ai présenté encore ce qu'ils m'ont dit, vous êtes provocateur. Alors moi, j'aime beaucoup, non seulement parce que le hamac, ça me plaît, bien que ce soit pas nécessairement super confortable, qu'on ait passé beaucoup de temps, mais c'est une autre histoire. L'idée consiste à dire, dans la conversion écologique, une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est ne pas faire. C'est résister à la société du faire, c'est résister à l'accélération, c'est résister à l'activisme, c'est résister... Voilà. Il y a pour partie une dimension tout simplement de pas de côté par rapport à une société qui est constamment dans le faire, dans le faire plus, et dans l'impact plus important, etc. Redécouvrir le sens de la limite, du repos, du sabbat. Le sabbat est une des lois bibliques et un des enseignements bibliques peut-être le plus écologique. Voilà, l'importance du non-faire. On pourrait en dire beaucoup plus, mais ça serait contradictoire de me reposer cette diapo. Invitation, allez-vous changer quelque chose dans votre vie en rentrant demain matin? C'est un chemin. La collaboration chrétienne, ça c'est maintenant le label Église verte. Et, pardon, je suis un peu vite sur le logo. Quand même, c'est un beau logo. C'est beau. Coloré, parce que l'écologie, c'est pas... La couleur, c'est pas le noir. La couleur, c'est celle de l'eau, le bleu. C'est celle des plantes, le vert. C'est celle du soleil, une sorte de jaune-orangé. Voilà. Et c'est une démarche d'espérance, d'où la colonne. Ce label est porté par les grandes institutions nationales. Conférence des Évêques de France, Fédération protestante, Assemblée des évêques orthodoxes. Le CERAS, le Secours catholique, le CCF des Terres solidaires sont des partenaires, etc. Donc on a vraiment là, vous ne pouvez pas faire plus de communiste que ça. C'est vraiment, tout le monde travaille ensemble, porte cela ensemble. L'esprit est d'offrir un outil facilitateur et bienveillant qui est destiné à inspirer, accompagner, encourager une démarche de conversion écologique. Autrement dit, ce n'est pas un surveillant passion qui vous note bien ou mal. C'est un outil bienveillant, qui vous accompagne, qui vous met le pied à l'étrier. Il s'adresse à diverses communautés chrétiennes, que ce soit une église locale, une paroisse, mais on a aussi des monastères, on a des œuvres, on a des mouvements, on a des écoles catholiques privées, on commence à avoir des EHPAD, on a un EHPAD protestant qui nous pose la question. Donc, tous ces lieux peuvent entrer dans cette démarche. On est en train de créer des choses spécifiques selon le type de public. Ce label fournit une méthodologie et un accompagnement pour se mettre en route, pour nourrir un processus, pour s'inscrire dans la durée, pour valoriser publiquement la démarche. Hein, quelque chose qu'on affiche, et ça fait partie du témoignage chrétien. L'écologie, c'est un lieu du témoignage de notre foi. Bien sûr, nous nous encourageons et nous nous inspirons les uns les autres. Cheminement en quatre étapes. Un, vous faites un groupe officiel. Vous enregistrez votre communauté en ligne. Donc il y a un site, égliseverte.org, vous le verrez tout à l'heure. Et alors, outil clé, vous remplissez et vous envoyez ce qu'on appelle un éco-diagnostic, 90 questions dans 5 domaines, les premières actions que vous avez décidées, et vous recevez une labellisation en retour. Puis, bien sûr, l'idée, c'est que vous progressiez d'année en année. Le site, donc, c'est égliseverte.org, vous avez ici l'adresse. Il y a deux mi-temps qui travaillent, vous avez un soutien et un accompagnement humain, pas juste un site internet dématérialisé. Il y a des ressources et des outils en ligne, on va le voir, et il y a un réseau écuménique national. Cet éco-diagnostic s'intéresse à 5 grands domaines, célébration et catéchèse, bâtiment, terrain, engagement local et global, donc ce que fait la communauté dans sa vie collective, et mode de vie, c'est-à-dire la manière dont la collectivité peut encourager et aider l'individu à changer. Pour vous donner un seul exemple de ça, il y a un curé à Montpellier qui m'a raconté ce qu'eux ils ont fait, ils ont mis un rack à vélo, comment on appelle ça en français, des arceaux à vélo, voilà. devant l'église, le dimanche d'après, ils ont 15 personnes qui sont venues à vélo à la messe. C'est pas que les gens ne voulaient pas. C'est qu'ils avaient nulle part où accrocher leur vélo et être sûrs de le trouver en fait. Et ça, c'est pas cher. C'est pas cher et c'est une manière dont l'église peut aider la personne à faire quelque chose différemment. Voilà une capture d'écran du début de l'éco-diagnostic. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est des questions avec la possibilité de répondre. C'est un choix multiple. Alors par exemple, question A3 dans célébration et catéchèse. Le respect de la création est un sujet de prière de la communauté, au moins une fois par mois, moins souvent, jamais, ne savons pas encore. Le ne savons pas encore, c'est un des exemples, il y en aurait plusieurs à vous dire, mais je ne donne que celui-là. La manière dont l'éco-diagnostic est bienveillant. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, d'être capable de répondre à toutes les questions pour faire un éco-diagnostic et envoyer une première version. Vous pouvez remplir ce que vous savez, et puis dans 6 mois, peut-être qu'on allait rassembler toutes les infos pour re-renvoyer. Simplement, quand vous mettez « nous ne savons pas », vous n'avez pas un bon score quoi, dans la question, c'est évident. Voilà. Mais vous pouvez le remplir sans savoir tout. Et il y a différents niveaux de labellisation. Ce n'est pas que vous êtes labellisé, vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas un coup près. Premier niveau, c'est ce qu'on appelle le grain de sénévé. Les réponses positives aux questions préalables, c'est est-ce que vous avez un groupe de ciel, etc. Grain de moutarde, on a pris une imagerie biblique des plantes, c'est le potentiel. Et puis il y a 4 niveaux effectifs, quand vous avez rempli l'éco-diagnostic, en fonction de vos réponses, le niveau liste des champs, le niveau stèle de vigne, ça c'est le niveau 2, le niveau figuier, et puis le 4e niveau, c'est le top niveau. Alors certains peut-être le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que vous pouvez deviner quelle serait la plante biblique qui incarne une majesté et le top?
L'olivier ou le
cèdre?
C'est le cèdre du Liban. Salomon, il comparait au cèdre. Le cèdre du Liban, le cèdre, c'est le top. Toutes les jauges du questionnaire dépassent 75%. Figuier, 50% pour 2 domaines, les autres à 25%. Cèdre de vigne, c'est au moins 2 domaines à 50%. Et le liste des champs, c'est vraiment, c'est le pied à l'étrier, questionnaire et 2 actions. Il y a des ressources dans les 5 domaines et dans la communication. Ces ressources prennent la forme de fiches. Vous voyez par exemple dans bâtiment, éclairage et chauffage. Et quand vous ouvrez une fiche, ça commence par les enjeux écologiques et spirituels. Donc c'est toujours un label chrétien, une démarche chrétienne. On va dire l'éclairage, c'est quoi l'enjeu? Et bien, dès que vous y réfléchissez 2 secondes, la lumière, dans un lieu privé, c'est fondamental pour le sens spirituel du lieu et la manière dont vous accompagnez les gens là-dedans. La lumière de bougie, c'est pas la même chose qu'un mélon. Hein. Vous n'avez presque pas créé pareil. Quoi. Voilà. Bon, donc il y a des enjeux derrière l'éclairage, à la fois spirituel, puis aussi, ben, c'est quoi comme lampe. On a un succès qui dépasse nos attentes, 330 communautés à ce jour. En 2 ans, c'est incroyable, on n'y pensait pas du tout. On est en fait victime de notre succès, notre staff n'arrive pas à suivre. Tout ce qui est en gris là, ils ont envoyé l'éco-diagnostic, mais on n'a pas eu le temps de le traiter. Les autres couleurs, c'est les différents niveaux du label. Donc, c'est une magnifique carte de France, et là, quel bel exemple de ce à quoi peut mener le dialogue œcuménique, dans la collaboration. Si vous cliquez, si vous zoomez, si vous cliquez sur une paroisse, vous avez ces coordonnées qui s'affichent. Donc si vous êtes localement, il suffit de zoomer sur votre région, vous voyez qui d'autre autour de vous le fait, et peut-être vous pouvez organiser une rencontre. Et après, ça dépend aussi de ce que les gens font. On a un réseau qui échange et qui se rencontre. Après, sur ça, je vais passer vite, parce que je suis déjà à la fin. Mais dire que c'est une démarche de conversion, même s'il y a un aspect très technique, il y a un éco-diagnostic, etc., il y a des infos, il y a des mesures, il y a des calculs, et tout ça. La démarche est une démarche spirituelle. Et je rappelle, psaume 104, 24, que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse. Nous sommes les témoins et acteurs reconnaissants et responsables, enracinés dans la gratitude et donc dans l'action, de l'amour de Dieu pour la création. Allez-vous rejoindre le mouvement? Évidemment, c'est la question. Et enfin, le politique. Le politique, un, le vote compte, bien sûr. Ce n'est pas moi qui vais vous dire pour qui voter. 2, les candidatures comptent. Et ça, c'est souvent oublié. Mais si on veut que notre vie politique et démocratique soit saine, qu'ils prennent ces sujets en compte, il faut aussi des gens qui aient le courage, seulement du courage, qui parlent de cette vie démocratique. l'adresse au décideur con. Là, il y a une autre photo, mais alors je ne sais pas avec la luminosité qui est vraiment pas très bien. C'est lorsque nous avons lu la première déclaration interreligieuse sur la crise climatique à François Hollande. Donc, toutes ces démarches-là, elles ont lieu autour de la COP21, vous voyez bien. Donc, il n'y en a pas encore eu sous Emmanuel Macron. On a essayé et on avait l'accord de principe pour refaire un plaidoyer et les gilets jaunes sont arrivés. Il n'y en a plus jamais eu un moment dans l'agenda présidentiel pour aller le rencontrer en interreligieux et faire du plaidoyer direct auprès de la présidente. Mais on va voir. Ça s'est un peu calmé. Peut-être qu'il y aura de nouveau 2 heures qui partent pour faire ça. L'adresse aux décideurs compte. Et vous voyez bien, il ne s'agit pas d'être dans une théocratie ou dans une compréhension hors du cadre de la laïcité, mais nous sommes un groupe comme d'autres et nous avons des valeurs, nous pouvons les exprimer et les porter au plus haut niveau de l'État. Et ça, ça peut faire aussi au niveau très local. On a des élections municipales en mars prochain, on va avoir des candidats. Dans quelle mesure est-ce qu'ils préparent leur commune à ce qu'ils veulent ? Dans quelle mesure leur commune, elle participe de la conversion écologique ou elle reste dans le problème ? Elle prépare le terrain aux difficultés, elle va vers une autonomie alimentaire, une autonomie énergétique ou pas. Donc on peut interpeller, on peut faire un vrai travail localement, puis après il y aura en 2022, il y aura les députés, etc. Les occasions, il y en a plein. Et mon mot de la fin, alors bon, on a parlé des éoliennes tout à l'heure avant de venir. Prenez la métaphore, on ne va pas rentrer dans le débat sur les éoliennes. La métaphore, c'est celle des pales de l'éolienne qui sont posées sur la base. La base, on l'a, le consensus théologique, on l'a, le dialogue œcuménique, il a lieu et il s'approfondit et il s'élargit. Et nous avons commencé à mettre nos pales sur notre éolienne chrétienne. Et le mot-clé pour moi, c'est celui de l'espérance. Et j'aimerais citer dans cette démarche œcuménique l'homme d'associé, en l'occurrence, le paragraphe 205, où le pape dit « Tout n'est pas possible, parce que les êtres humains capables de se dégrader à l'extrême peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer. Il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté. Pas de système qui annule complètement la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs. » Merci beaucoup pour votre attention.
Merci, on vous laisse pause. Une dizaine de minutes, j'ai l'habitude, plus dans 10 minutes. Donc on prendra, vous connaissez la plupart la règle du jeu, on prend.